RCF.
10h, 11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
Allez, prenez-en de la graine, votre émission du vendredi consacrée au jardinage pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, tout en prenant soin de la planète. Alors si vous venez d'une autre planète, que vous ne connaissez pas cette émission, je vous présente le mode d'emploi, c'est extrêmement simple. Si vous avez une question de jardinage ou besoin d'un conseil, vous appelez le 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, ou alors vous envoyez un mail à l'adresse directe @rcf.fr. Et notre jardinier du jour, c'est Fred Fortin, jardinier formateur à Terre et Humanisme. Bonjour Fred.
Bonjour Melchior, bonjour à tous les auditeurs.
Ça fait plaisir de vous entendre. Merci à l'équipe de Priva qui vous accueille ce matin en studio et notamment à Vincent. Comment va votre jardin, mon cher Fred?
Eh bien, mon jardin, il va bien. Il a été beaucoup mouillé, beaucoup inondé ces derniers temps. On a eu, rien que ce week-end, un épisode Cévenol.
Oui.
Semi-épisode Cévenol, semi-épisode méditerranéen. On a eu 15,7 cm d'eau en un week-end, ce qui est quand même énorme. Et ce qui me dit que les jardins en agroécologie, en fait, sont très résilients. Parce que autour de chez nous, en fait, il y a eu beaucoup de champs inondés. Donc des champs qui ont des pratiques culturales un peu dur, un peu mécanisé. Et nous, dans nos jardins, grâce à toutes les techniques agroécologiques qu'on a pu mettre en place depuis tant d'années, avec tous ces couverts végétaux, ce travail du sol léger, tous ces apports de matière organique, mais en fait, on n'a aucune inondation et le sol est vraiment bien ressuyé et a vraiment réussi à
éponger. Non,
éponger à vraiment à, je sais pas, je trouve pas le mot.
Vous pouvez pas essayer de trouver d'autres mots ou changer la phrase, Fred. Peut-être que je vais trouver le terme.
Il a réussi à passer un peu cet épisode dans les meilleures conditions.
Bon, voilà, c'est bien résumé. Vous êtes en Ardèche, hein, je le rappelle. En Ardèche, c'est ça.
Tout à fait.
Est-ce que, d'après vous, ce sont des températures, enfin, c'est une météo de saison?
Là, pour le mois de mars, oui, c'est une température de saison. Nous, on a l'habitude en Ardèche du Sud, quand même, début mars, d'avoir des belles journées, quand même, avec des nuits assez fraîches, ce qui correspond vraiment à une température quand même de saison. Ce qui n'a pas du tout été le cas au mois de février, où on a eu vraiment des excédents de température, et ce qui, malheureusement, a fait démarrer la végétation un peu trop vite. Et on s'est retrouvé quand même avec un maximum d'arbustes en fleurs, qui, normalement, rentre en floraison à la mi-mars, fin mars. Ce qui est assez problématique, que si on a des gels tardifs, que du coup ça va tuer un petit peu la pollinisation et ça peut être compliqué pour la production des fruits.
Alors, vous avez choisi une thématique ce matin. En attendant vos questions au 04 72 38 20 23, vous aimeriez aborder un thème, celui de la couche chaude. Alors là, il va falloir m'en dire un peu plus.
Alors, tout à fait, Melchior. J'ai voulu parler de la couche chaude parce qu'en fait, c'est encore une fois une technique agroécologique qu'on utilise, nous, depuis 30 ans dans nos jardins. Et en fait, en agroécologie, eh bien, on est souvent paresseux. On est souvent fainéant, mais on est malin. Ça veut dire qu'on va imiter la nature. On va imiter, on va observer la nature, on va imiter la nature et on va regarder un peu qu'est-ce que peut faire. Et en fait, on s'est rendu compte que en faisant des composts, un certain type de compost, en fait, et ben pourquoi pas faire des gros composts, utiliser la chaleur que va produire le compost pour l'utiliser, pour pouvoir forcer, pour pouvoir faire ses premiers semis les plus délicats. Alors je m'entends, dans les semis les plus délicats, il y a certains semis comme les tomates, les aubergines, les poivrons et d'autres qui ont besoin d'une température minimale pour germer de 18 degrés, 18-20 degrés. C'est vraiment la température idéale.
Ouais.
Et pour ça, on peut utiliser des tapis chauffants forcément. On peut se mettre derrière une fenêtre, dans sa maison, avec un environnement qui est chauffé. Mais dans son jardin, si on veut avoir un grand jardin ou même un petit jardin, on peut faire ce qu'on appelle une petite couche chaude. Ça veut dire qu'on va mettre dans un bac, Donc il faut quand même au minimum souvent 2 mètres cubes de compost. On va faire, on va ériger un compost pour utiliser la chaleur. Et ensuite, on va pouvoir venir poser ces semis les plus délicats sur la couche chaude. Alors attention, quand on crée sa couche chaude, bien sûr, du coup, souvent, on va utiliser et nous, on utilise ce qu'on appelle des fumiers trépailleux.
Ah oui.
Donc des fumiers frais, trépailleux, qui ont un rapport carbone-azote assez équilibré. Et qu'on va venir mettre dans un grand bac comme ça. On va venir bien vérifier le taux d'humidité. Et en fait, ça va permettre de faire chauffer. Ça va monter en température assez fort. Ça peut monter à 60, 70 degrés, même voire 80 degrés hein, quand les conditions sont réunies. Et en fait, l'idée de venir mettre ces semis sur la couche chaude, on va laisser la température monter. Au maximum, oui. Souvent, 70 degrés. Et on va laisser redescendre la température à peu près à 25-30 degrés.
Donc, la technique de la couche chaude que vous nous faites découvrir ce matin, mon cher Fred, et on n'a pas fini d'en parler, il y a plein de choses à découvrir. J'aimerais qu'on accueille Bruno au 04 72 38 20 23, premier auditeur de l'émission. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Asnières.
Tout à fait.
Eh ben c'est super, on vous écoute.
Oui, alors j'ai deux questions sur la taille des arbres fruitiers.
Oui.
La première, de façon chronologique, normalement, si le temps n'avait pas été trop chaud, il serait encore temps de tailler les arbres à pépins, pommiers, poiriers. Jusqu'à quand pouvons-nous tailler les arbres à pépins? Première question. Et deuxième question, identique pour les arbres à noyaux, c'est un peu plus compliqué. Quelle est la meilleure période pour tailler les arbres à noyaux et jusque quand pouvons-nous le faire?
Eh ben voilà une bonne question. Merci Bruno de l'avoir posée. Fred, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, il a tout à fait raison. On est sur un hiver particulièrement doux. Et le problème, c'est que la végétation a commencé à reprendre, la montée de sève a repris. Et l'idée, c'est souvent de tailler quand la montée de sève est basse. Alors, pour tout ce qui est fruits à pépins, oui, on peut facilement tailler jusqu'à la fin mars en général. Mais c'est vrai que cette année, ce serait bien quand même de tailler, je dirais, de pas vraiment attendre jusqu'à la fin mars, ouais. Mais de s'y mettre peut-être vraiment en ce moment. Pour tout ce qui est fruits
arbres fruitiers, ouais.
Arbres fruitiers. Donc il y a vraiment deux différences. Il y a les arbres fruits à pépins et à noyaux. À noyaux, c'est un petit peu plus tôt, voire en fin de saison, quand la sève commence à redescendre. Donc en fonction des arbres, hein, ça va vraiment être une taille douce, une taille d'entretien. Ou peut-être plutôt une taille de fructification. Mais en tout cas, pour tout ce qui est fruits à pépins, on va bien parler des poires, des pommes, des nèfles. Et tous ces fruits, en fait, là, il va vraiment falloir, ne va pas falloir attendre. Surtout, alors je sais pas, Asnières, c'est où exactement?
C'est en Ile-de-France et c'est grâce à Radio Notre-Dame, d'ailleurs, qu'on salue les auditeurs de Notre-Dame qui nous écoutent à Paris, en Ile-de-France.
Alors Bruno, en Ile-de-France aussi, les arbres ont un peu d'avance?
Alors, oui, les arbres ont un peu d'avance. Les pruniers sont déjà commencent à sortir. Mais moi, je vais bientôt aller en Périgord, et je crains que la végétation soit déjà bien partie, donc je vais être vigilant avec le sécateur pour pas trop endommager l'arbre, pour que il y ait un maximum de fruits, quoi.
On peut aussi la taille n'est pas, c'est la taille, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Ça veut dire que cette année, si vous rentrez dans le Périgord, ne taillez pas, laissez l'arbre faire ses branches de l'année. Et l'année prochaine, par contre, vous taillez à la bonne saison. Ça veut dire fin de saison, début d'automne pour les fruits à noyaux et jusqu'à février-mars pour tout ce qui est fruits à pépins.
Voilà Bruno.
Merci beaucoup.
Eh ben, c'est très gentil de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Vous continuez de venir à l'antenne avec toutes vos questions ce matin. J'ai un message de Liliane pour vous, Fred. Nous avons récupéré du marc de vigne, mais il est plein de gros vers blancs. Puis-je le mettre dans mon jardin ?
Oula.
Alors, ça commence bien. C'est du marc de raisin, hein,
Bien sûr. Donc c'est ouais. Cette marc de vigne, elle a dû commencer à composter, je pense.
Ah bah oui, s'il y a des gros vers blancs, je pense que là, oui. Ouais.
Et ces gros vers blancs, ce sont des larves de scarabée qui sont complètement inoffensives et qui sont là pour décomposer la matière organique. Donc la matière organique plutôt, je dirais, carbonée, la matière organique plutôt ligneuse. Et en fait, il n'y a aucun problème pour la mettre autour de... Pour l'épandre. Aucun problème.
Bon, ben voilà, ça répond à la question de Liliane. Une autre question de Thomas, un auditeur fidèle qui nous envoie un mail et qui est très intéressé par la couche chaude, hein, cette technique que vous nous présentez, Fred, ce matin. Quelle est la taille minimum pour que ce système soit efficace ?
Alors, comme je disais à la présentation, il faut... minimum, vraiment minimum, bien respecter une taille quand même de 2 mètres cubes. 2 mètres cubes, ça fait quoi ? Ça fait 2 mètres de longueur, 1 mètre de hauteur sur 1 mètre de largeur. Si vous ne respectez pas cette taille minimale, en fait, il ne va pas y avoir assez de biomasse, pas y avoir assez, je dirais, de matière organique pour que le compost il puisse monter suffisamment en température pour qu'on ait cette grosse montée en température. Et après, ce qu'on va utiliser dans la couche chaude, c'est vraiment la descente de température qui peut durer des fois entre un mois et demi et 2 mois. Donc c'est bon, on va vraiment garantir une 25 degrés en moyenne sur 2 mois. C'est ça qui est très intéressant, quoi. Mais bien faire attention de ne pas mettre ses semis forcément pendant la montée de température maximale. Et en fait, ce que je pourrais rajouter sur la couche chaude, c'est que la couche chaude, vous pouvez l'utiliser comme nous en mettant des semis, des barquettes de semis sur la couche chaude. Quand la température a bien descendu. Mais on peut aussi faire une couche chaude comme les anciens, comme les maraîchers faisaient à l'époque, surtout sur la ceinture de Paris,
ouais.
Où ils cultivaient des melons dès le mois de mars, où en fait ils faisaient une couche chaude sous châssis avec une vitre au-dessus pour capter le soleil de la journée et pour que la nuit, il y a la couche chaude qui fasse de la température et qui laisse les semis et les plantations de melons justement à une température optimale pour éviter les gelées et pour qu'il y ait assez de chaleur pour qu'ils puissent croître. Et c'était une technique qu'on utilisait beaucoup, hein. Si on peut regarder sur le livre des anciens, sur les livres d'agriculture ancienne, on voit vraiment des photos des maraîchers sur toute la ceinture de Paris qui faisaient des melons sur Paris, quoi. Ah, donc ouais. Ça marche assez bien, quoi.
Mais
nos anciens avaient vraiment les bonnes techniques.
Si je devais résumer un peu tout ce que vous dites depuis le début de cette émission, la technique de la couche chaude, c'est vraiment de créer un lit de semences.
Voilà, c'est ça. On va faire la couche chaude, donc ça veut dire que vous allez mettre dans le fond de la couche chaude le fumier frais assez pailleux que vous allez arroser pour avoir une bonne humidité. Donc nous, faut savoir que en plus du fumier bien pailleux, on aime bien rajouter de la matière organique fraîche herbacée comme de la tonte de gazon qu'on va venir mélanger en plus du fumier. Pour encore accélérer le processus de compostage et avoir encore plus de température, quoi. Donc, si vous voulez faire directement un lit de semis dessus, vous faites votre 1 mètre de fumier pailleux et au-dessus, vous pouvez rajouter 10, 20 cm de terreau pour pouvoir faire vos semis.
Et ben voilà, la couche chaude qu'on découvre ce matin dans Prenez-en de la graine avec Fred Fortin. Vous continuez de nous appeler avec toutes vos questions de jardinage et vos besoins de conseils au 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23 ou alors par mail à direct@rcf.fr. De la musique, Fred, je vous propose alors deux duos, soit Icar et Gauvin Serre et Joseph Camel et Julien Doré ou une chanson de Zao de Sagazan. Qu'avez-vous envie d'entendre ce matin?
Alors, je ne connais pas Zao de Zagazan, donc je vais découvrir.
Zao de Zagazan, bon, je pense que vous avez déjà entendu cette musique. Elle a raflé des victoires de la musique il y a quelques semaines. On l'écoute et puis on commente juste après si ça vous va. Et ça va vous laisser le temps de nous appeler avec vos questions de jardinage au 04 72 38 20 23. Vous restez bien branchés à RCF et parce qu'on aura des cadeaux à vous offrir également à partir de 10h30. Bon début de journée à chacun d'entre vous.
Au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer. Au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
La symphonie des éclairs, Zao de Zagazan. Voilà, Fred, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, non, cette chanson?
Que j'ai déjà entendu.
Ben voilà, je vous l'avais dit. C'est une belle découverte en tout cas, voilà, la symphonie des éclairs, et elle cartonne en ce moment.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Fred Fortin nous accompagne jusqu'à 11h, jardinier et formateur à terre et humanisme qui vous donne de bons conseils de jardinage ce matin. Bonjour Jean.
Bonjour messieurs.
Vous êtes à Châlons-en-Champagne, on vous écoute.
Tout à fait. Deux petites questions, s'il vous plaît.
Oui.
On a eu énormément, enfin, on n'a même pas réussi du tout à avoir des radis noirs qui ne soient pas creux, à tel point que quand on les consomme, on est obligé de prendre juste la périphérie du végétal, du légume.
Oui.
Et on mange un centimètre, quoi. Tout le reste, c'est creux. Ça, il y a carrément une canalisation à l'intérieur. Allez, deuxième question.
Alors, on va essayer de répondre à la première question. Jean, merci beaucoup. Une affaire de radis noir, Fred, qui est creux. C'est la première fois que j'entends ça.
Et oui, moi aussi, pareil. Donc, ça doit sûrement être dû à un ver qui vient manger l'intérieur du radis. Un ver, donc je pense pas forcément au topin, mais peut-être un verre blanc, sûrement. Moi, ma première idée, ça serait de gratter un peu le sol, voir si vous voyez des vers autour des radis quand vous les ramassez ou pendant la croissance.
Ah.
Mais ma deuxième idée, c'est aussi peut-être l'année prochaine de semer des radis noirs ou peut-être cette année au printemps à un autre endroit au jardin, ou multiplier les endroits où on pourrait justement semer ce radis noir pour optimiser un peu les chances de culture pour éviter peut-être ce radis.
Ça fait
pour éviter ce vert.
Ça fait ça depuis combien de temps, Jean ?
Non, mais bah, ça fait 2 ans que c'est comme ça, il n'y a pas d'explication rationnelle. Mais les canalisations dont je vous parle, on les retrouve aussi dans les simples radis rouges.
D'accord.
C'est la même canalisation. Je ne pense pas que ce soit un animal qui le fasse. C'est le végétal qui a peut-être, dans sa croissance, n'a pas eu les éléments, les oligo-éléments qu'il fallait. Et il y a une croissance qui est perturbée. Donc, ce qui est juste consommable, c'est la périphérie du légume.
La périphérie, ouais.
Et l'intérieur, ça fait un réseau de petites canalisations, 1 mm, 2 mm. Vous voyez, mais c'est carrément cru. C'est un mangeable. Hein. C'est un mangeable.
D'accord.
Hein. Ça n'a pas de bouche et... Je sais pas, il n'y a pas de...
Du coup, vous êtes sur les sols de champagne, souvent sur des sols assez pauvres. Vous amenez quoi au jardin pour l'amender ?
Effectivement, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas mis de terre de bruyère ou d'autres apports. C'est vrai, la terre...
Ouais. Et peut-être Fred, que c'est un problème de génétique. Alors, je pars loin, hein, mais c'est peut-être.
Mais pourquoi pas, oui. Oui, ouais. Oui, parce qu'il y a certaines variétés, il y en a qui sont plus ou moins ronds, plus ou moins longs, etc. Oui, peut-être.
Ouais. Fred, là,
et
pour
l'instant.
Oui, votre deuxième question.
Alors, ça concerne, c'est totalement différent. C'est la culture du melon.
Il est creux.
Ah non, pas du tout. Non, ils étaient ceux que j'ai fait, ils étaient savoureux. Mais par contre, j'ai lu différentes cultures là. Et récemment, j'ai vu quelqu'un qui sélectionne un seul fruit par pied et qui a une taille très sévère. C'est-à-dire, dès que le fruit apparaît, il garde 3 feuilles sur la même tige et après il coupe. Alors que vous le savez, le melon est extrêmement prolifique. Sur la même tige, on peut avoir entre 3 et 5 melons sans problème, quoi. Donc moi, après, c'est une question de goût. C'est-à-dire, plus on en laisse sur la tige, moins ils auront de goût. Mais voilà, je voulais avoir votre opinion là-dessus, parce qu'il y a deux techniques de mise à fruits qui sont assez opposées. Alors, moi, je laisse tout sur mon branche, sur la tige.
Bien sûr, c'est très intéressant comme question. Et ça, c'est en fonction de notre approche aussi par rapport à la nature, par rapport au jardin. Nous, comme je disais au début de l'émission, on est assez fainéants, assez paresseux en agroécologie. On va laisser un peu la nature faire son œuvre, en fait. Laisser le génie végétal travailler pour nous. Et nous, en 30 ans de jardin interhumanisme, donc moi et mes ancêtres jardiniers, hein, j'aime bien les appeler comme ça, on n'a jamais, vraiment au grand jamais, taillé nos melons, quoi. On laisse vraiment toujours la nature faire, on les laisse pousser, grandir, et ils vont nous donner 4-5 melons, comme vous dites. Et je suis pas forcément d'accord avec le goût. Le goût, ça va venir aussi du terroir du sol, ça va venir aussi... de un peu forcer le melon, et le goût on le retrouve vraiment même si on va pas tailler très sévèrement son melon. Donc nous, notre approche interhumanisme en agroécologie, c'est de vraiment laisser la nature faire et de laisser le melon pousser, grandir et recouvrir tout l'espace. Voilà.
Bon, ben voilà.
Ok, vous ne supprimez aucune feuille.
Aucune feuille.
Voilà, aucune feuille, Jean.
On laisse faire.
Eh ben merci en tout cas, Jean, de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23 pour poser ces questions. Bon, bah, l'affaire du radis creux, si jamais quelqu'un a la réponse, envoyez-nous un mail à direct@rcf.fr ou un message sur WhatsApp au 04 72 38 20 23. Bonjour Geneviève.
Bonjour, Melchior.
Oui.
J'aurais voulu savoir si c'est pas trop tard pour planter les arbres, si c'est encore le moment, si on peut.
Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Vous êtes sur quelle région, Geneviève?
Je dis Craponne.
À côté de Lyon, c'est à côté de Lyon.
Voilà, ensemble. Oui, c'est pas...
Fred. Oui.
Ah, Melchior, tu connais toutes les villes de...
Ah ben non, mais je... Oui.
De France, de Navarre.
Étant né à Lyon, je connais un petit peu les alentours, oui.
Et de Paris. Alors Geneviève, pour la plantation des arbres, ça va être un peu juste là, je vous avoue, pour la région lyonnaise, parce que comme on disait en début d'émission, la saison a démarré un peu plus tôt, on a quand même des douceurs qui sont exceptionnelles. Donc ce que je dirais, tout ce qui est plantation d'arbres à racines nues, on va vraiment éviter, là ça va être un peu trop tard. Par contre, ce qui va être possible, Geneviève, ça va être de planter des arbres en pot. Alors, en pot, ça veut dire qu'ils ont toutes leurs racines qui sont déjà un peu développées dans un pot. Et là, on peut vraiment les planter même jusque la mi-avril, début mai. Il n'y a aucun problème parce que ils sont déjà partis dans leur pot, quoi. Donc, tout ce qui est racine à nu, on évite vraiment un maximum. La racine à nu, c'est bien de le faire vraiment entre fin novembre jusqu'à janvier, voire février en fonction des régions. Et mais les arbres à pot, là, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Après, il faut savoir que les arbres à pot, ça coûte un petit peu plus cher.
Voilà. Geneviève, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Ah oui, pardon, vous entendez pas. Est-ce que ça vous va comme réponse?
Oui, ça va. Oui, c'est ce que je voulais savoir.
Eh ben, c'est super. Ben, écoutez, merci beaucoup de nous avoir appelés au 04 72 38 20 23. Je reviens sur la couche chaude, Fred, avec une question de Thomas. Peut-on mettre du fumier sans paille pour faire une couche chaude? Et quelle épaisseur?
Alors, on va revenir sur l'étymologie du fumier. C'est quoi du fumier? Le fumier, c'est vraiment un mélange de matières azotées, qui sont les excréments d'animaux et l'urine, mélangées à une litière. Cette litière, elle peut être, ça peut être de la paille, ça peut être du chanvre, ça peut être des copeaux de bois. Voilà, mais vraiment un fumier, ça ne peut pas être que des excréments d'animaux mélangés à de l'urine.
Oui,
un fumier, c'est toujours mélangé avec ce qu'on va dire un fumier un peu pailleux, beaucoup pailleux, donc avec cette litière. Donc, si vous voulez faire une couche chaude simplement avec des excréments d'animaux frais, ça va pas marcher. Il va y avoir un excès d'azote, en fait. Beaucoup trop d'azote, ça va rentrer en putréfaction, ça va sentir l'ammoniac, ça va ne pas fonctionner. Il va toujours falloir rééquilibrer avec une matière carbonée, que ce soit de la paille, que ce soit du foin, que ce soit je sais pas, des copeaux de bois, du BRF, des feuilles mortes, mais toujours bien mélangé, quasiment à une unité pour unité, donc unité d'azote pour unité de carbone, et de mélanger tout ça avec un croc ou une fourche, quoi. Ça, c'est vital pour réussir une couche chaude, sinon ça ne va pas marcher.
Bon, bah voilà. C'était donc une très très bonne question. Et en un mot, Fred, à quelle température peut résister cette technique pour laisser les plants dedans?
La température minimale à respecter.
Ouais.
Donc ça, alors en général, on peut commencer à mettre ses plants même si la couche chaude elle est à 40 degrés.
D'accord.
Je m'explique. Ça veut dire qu'on met un thermomètre au cœur de la couche chaude. Donc au cœur de la couchette, il va faire 40 degrés, mais forcément au dessus, il va pas faire 40 degrés.
Ouais.
Alors si même il fait 40 degrés à l'intérieur. Vous allez pouvoir mettre aussi des planches suspendues à 10-20 cm de la couche chaude pour encore réduire un peu la température.
Et
plus la température va baisser, plus vous allez pouvoir mettre les semis. Oui.
Ouais, je vous coupe la parole parce que vous entendez le petit générique, ça veut dire que c'est l'heure de la pause. Donc on se retrouve dans un instant.
D'accord.
Et on va continuer là-dessus avec toujours vos questions 04 72 38 20 23.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et toujours avec Fred Fortin, jardinier et formateur à Terre et Humanisme, qui répond à vos questions ce matin de jardinage au 04 72 38 20 23. Dans un instant, on accueillera Simone. Je reviens sur la température. Je pense que j'ai mal posé ma question, Fred, en fait. Est-ce que c'est plutôt la température extérieure? Est-ce que ça résiste à toutes les températures? Si, par exemple, on est en plein hiver et qu'il fait moins 5, moins 10 chez soi, est-ce que c'est possible quand même? Ça fonctionne?
Alors, une petite précision, nous, la couche chaude, elle est dans la serre.
Ah.
Et en plus de la serre, on a fait une serre dans la serre. Ça veut dire qu'on a refait une autre serre avec des bâches plastiques autour dans la serre pour encore optimiser la chaleur. Et en plus de ça, quand ils annoncent des températures très basses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un voile de protection, un voile de forçage qu'on appelle le voile P17.
Ah oui.
Au-dessus pour encore protéger les semis. Donc, si vous êtes vraiment dans une région très froide, il est possible de faire la couche chaude à l'extérieur, mais il va falloir vraiment bien isoler les extérieurs de la couche chaude avec de la paille. Et au-dessus, s'ils annoncent du très froid, ça veut dire peut-être mettre des vitres et au-dessus, remettre un autre une protection avec du P17.
Voilà, bah c'était...
Alors, vous savez, Melchior, pourquoi on appelle le voile de forçage P17 P17
Non. Sincèrement, non.
Parce que c'est la composition du voile qui est de 17 grammes par millimètre, ou je sais plus trop. Et en fait, c'est vraiment la capacité qu'a un légume de pouvoir pousser si on met ce voile dessus, sans qu'il force, en fait, quoi.
D'accord. 17 grammes par mètre carré, du coup, j'imagine. Ouais.
Je pense, ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant avec le P17, c'est que le légume, il peut pousser tout en montant le voile et tout en protégeant du gel un certain degré quand même.
Bon, bah voilà, c'était important d'en parler, mon cher Fred. Allez, sans plus attendre, on accueille Simone. Bonjour, Simone.
Bonjour.
Et désolé pour l'attente, Simone.
Non, je vous écoutais en même temps.
Bon, bah, c'est super. Vous êtes à La Roche-la-Molière ou Roche-la-Molière, c'est ça ?
Voilà, à côté de Saint-Étienne.
Eh bien oui, tout à fait. On vous écoute.
Donc j'ai un Clivia vermillon et je voulais savoir quand diviser, parce qu'il fait beaucoup de touffes, j'en ai 7 ou 8 dans un grand pot. Et est-ce qu'il faut de l'engrais ? Et puis pourquoi les touffes ne fleurissent pas toutes ensemble ? Il n'y en a que 3 pour l'instant sur les 8.
Voilà, vous m'avez dit un Clivia
Vermillon.
Vermillon.
Vermillon. Clivi. Ça fait des fleurs oranges.
Ouais.
Beaucoup de fleurs oranges.
Le Clivi Vermillon, Fred, c'est ce qu'on appelle aussi lys de Saint-Joseph ou lys du Natal.
C'est ça.
C'est très très joli, c'est orange. Orange.
Et les fleurs, elles arrivent petit à petit au milieu de la, voilà, des feuilles vertes.
Ah oui, donc il y a un petit souci avec votre Clivi vermillon. Qu'est-ce que vous en pensez, Fred ?
Excusez-moi, Simone. Bonjour d'abord, Simone. En fait, je regardais un peu à quoi ça ressemblait. Je ne connaissais pas cette plante. Et je n'ai pas écouté la question.
Oui, c'était parce qu'il est très très gros, donc je l'avais dans un hall d'entrée et il tient trop de place et je voulais savoir pour le séparer, pour séparer les touffes et quelles précautions à prendre et puis et à quand le faire, soit c'est au printemps, soit c'est à l'automne. Et alors, il fleurit qu'en février, à peu près fin février, début mars, donc là il fleurit pour l'instant.
Bon, je pense qu'on va le laisser fleurir pour qu'il agrémente au maximum l'entrée de votre maison. Alors, quand on veut rempoter une plante d'intérieur, on attend forcément le début du printemps. L'idéal, c'est vraiment avril-mai pour repiquer, rempoter nos plantes vertes avec un nouveau terreau qui va être riche en nutriments, qui va rebooster les plantes. Donc là, je dirais que ce petit Clivia mervillon qui est magnifique, c'est vrai que j'ai vu des photos, ça donne envie.
Ouais.
Pour être franc avec vous, Simone, je ne connais pas trop cette plante, mais j'ai quand même l'intuition on peut facilement faire une division de touffe. Donc on enlève la motte du pot, on prend une pelle bêche bien aiguisée, on coupe en deux si vous voulez la partager pour refaire deux plantes et on remet dans un nouveau pot avec un bon terreau et on fait toujours bien attention à l'hydromorphie que les plantes ne soient pas baignées dans l'eau quoi, que toujours que la plante puisse se ressuyer, qu'il y ait un bon drainage pour avoir des bonnes plantes en bonne santé.
Voilà. Et donc essayez ça, Simone.
Et avril, voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Continuez bien.
Mais c'est très gentil. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Mon cher Fred, on a des cadeaux à offrir ce matin à nos auditrices et nos auditeurs. Et ça, ça nous fait vraiment plaisir. C'est grâce à notre partenariat avec Terre et Humanisme. Alors, c'est soit une formation de 1 à 3 jours sans adhésion de la part des auditeurs à Terre et Humanisme. Donc, ça veut dire qu'il faut se rendre en Ardèche à Terre et Humanisme. Ou alors des graines. C'est un peu des graines de la surprise que vous préparez, vous, en équipe.
Bien sûr, c'est des graines qu'on cultive dans le jardin des semences, qu'on appelle le jardin des semences. Donc, tous les ans, on va réfléchir à cultiver 2-3 essences de tomates, par exemple, un cornichon, une courgette, qu'on va vraiment chouchouter pour les récupérer que la semence. On va pas les manger, on va utiliser que la semence.
Oui.
Et l'idée, ça va être de vous offrir ces semences qu'on a travaillées, qu'on a vraiment chouchoutées pour les recueillir. Et ce sera sûrement sur des semences de tomates de l'année dernière que vous allez pouvoir avoir chez vous. Donc ce sont des semences paysannes, reproductibles, biologiques. Et vous êtes sûr que vous allez retrouver vraiment un goût véritable de la tomate et une bonne production.
Voilà, des graines ou alors une formation à l'Ablachère, c'est en Ardèche au sein de Terre et Humanisme. Vous avez le choix et c'est à vous de jouer maintenant en envoyant un mail à l'adresse direct@rcf.fr avec vos coordonnées. direct@rcf.fr. N'oubliez surtout pas vos coordonnées, sinon on pourra rien faire avec vous. direct@rcf.fr pour tenter de remporter soit des graines de la surprise de Terre Humanisme ou alors une formation de 1 à 3 jours. Bonne chance à tous, évidemment. Et bonjour Jean-Louis.
Oui, bonjour. J'ai 4 questions brèves et précises.
Oula, ça fait beaucoup, Jean-Louis.
Non, mais vous allez voir, c'est très rapide.
Oui, allez-y.
J'ai 2 kiwis, mâles et femelles. L'un des deux n'a pas supporté la canicule.
Oui.
Première question, comment reconnaître celui qui reste, du mâle ou de la femelle ?
Fred.
Deuxièmement,
alors attendez, Jean-Louis, on va répondre question par question, ce sera plus simple quand même, je pense. Alors Fred, comment on reconnaît mâle et femelle du kiwi ?
Tout simplement, on va le reconnaître, on peut pas le reconnaître forcément avant la floraison, la floraison de quand la fleur va ouvrir. En fonction si une fleur femelle ou une fleur mâle, tout simplement. Voilà, en attendant la floraison du kiwi qui a survécu. Donc vous allez bien voir si c'est une fleur mâle ou une fleur femelle.
On voit si c'est une fleur mâle ou femelle.
Si vous voyez les pistils dans la fleur.
D'accord.
Tout simplement.
Tout simplement. Ouais. Tout simplement. Hein, c'est tout simple.
Jean-Louis, vous connaissez les pistils ?
Ben non.
Ah. Il fallait le dire plus tôt. Pistil de fleurs, ce sont des comment on appelle ça ? Alors attendez.
Je sais ce que c'est, mais le mâle, je suppose, a un pistil et la femelle n'en a pas, je sais pas.
Tout à fait. Comme nous, les humains, la fleur mâle est portée par une tige, en fait.
Voilà, d'accord. Ok.
Tout simplement.
Deuxième question, comment soigner les kiwis en période chaude pour qu'ils ne leur arrive pas le malheur qui leur est arrivé l'année dernière ?
Alors, il va falloir, faire attention de bien pailler au niveau du sol pour éviter, bien faire un bon paillage au niveau du sol. Et la seule solution vraiment pour protéger son kiwi, déjà, ça. En amont, quand on le plante, c'est vraiment le mettre sur derrière un mur pour éviter les vents. Si vous pouvez le mettre derrière un mur plein sud, c'est vraiment l'idéal. Et sinon, en aval, la seule façon, c'est de mettre un voile de protection P17, un voile de forçage, quoi.
Voilà, Jean-Louis.
Troisième question, peut-on les tailler bas pour les maintenir bas? Parce que ça grimpe.
Est-ce qu'on peut les tailler bas ?
Bien sûr, on peut faire une taille d'entretien qui va permettre à la tige de partir, de conduire la tige de l'année et la conduire à votre convenance et de tailler les tiges qui partent par-dessus.
Et enfin, dernière question, comment bouturer le kiwi ?
Oula !
Oula, alors le bouturage du kiwi, c'est quand même un bouturage assez compliqué à réaliser, qui se fait. Il faut un taux d'humidité très intense, et souvent on l'utilise avec on va utiliser deux bouteilles d'eau qu'on va venir mettre dans la bouture. C'est une bouture une des plus difficiles à réaliser, donc parce qu'il faut vraiment un taux d'humidité je dirais en minimum de 70 à 80%. Personnellement, moi qui ai quand même l'expérience, j'ai eu beaucoup de mal. Donc moi, pour le bouturage du kiwi, je vous conseille soit de partir du semis, soit vraiment de demander aux professionnels. Mais voilà, il faut utiliser des bouteilles fermées. On va créer vraiment une atmosphère avec une hygrométrie très très forte de 70 à 80%, mais c'est très compliqué.
Jean-Louis, bon courage. En tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une jardinerie ou de professionnels du jardinage pour peut-être vous aider vraiment sur le terrain. Et merci pour vos questions. Je répète, c'est quand même plus simple quand vous venez à l'antenne avec une seule question. Sinon, voilà, c'est pas cool pour les autres auditeurs et auditrices qui patientent, surtout qu'en général, il y a vraiment une vraie attente dans cette émission. Voilà, je ferme la parenthèse. On continue avec Myriam. Bonjour à vous, Myriam.
Oui, bonjour.
On vous écoute, bienvenue.
Voilà. Je voulais savoir ce qu'il faut faire des jacinthes une fois les fleurs fanées. Est-ce qu'il vaut mieux laisser pousser les feuilles jusqu'à épuisement ou les couper le plus vite possible pour que les oignons soient en bon état pour l'année suivante?
Bonjour. Au niveau des jacinthes, donc ce sont des plantes souvent qu'on va mettre à l'intérieur pendant la saison froide, hein, de novembre à janvier. Moi, j'aime beaucoup agrémenter mon intérieur avec ces petites jacinthes qui sont de différentes couleurs et qui agrémentent très vite l'intérieur et qui nous embaument de leur parfum hyper intéressant.
Oui.
Moi, personnellement, je les laisse fleurir un maximum. Et dès que je vois que la fleur est fanée, voilà, je coupe la fleur forcément, je laisse le vert. Et après, je vais garder mes petits oignons où je vais les sortir de terre. Je vais couper le vert et je vais les garder à l'extérieur dans un endroit où ils vont pas trop prendre le soleil, à la mi-ombre. Je vais les mettre dans un pot de terreau et ils repartiront au printemps, soit de l'année d'après, mais ou soit dans l'année en cours.
Voilà, Myriam.
Donc, il vaut mieux le laisser pousser après, une fois que la fleur est fanée. C'est
ouais,
ça.
Voilà, exactement.
Il
n'y
a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup.
Eh ben, c'est gentil, Myriam. Merci à vous d'être venue à l'antenne en Prenez-en de la graine pour poser votre question au 04 72 38 20 23. Je rappelle que vous pouvez tenter de remporter alors soit une formation directement à Terre et Humanisme, ça se trouve en Ardèche, ou alors des graines préparées par les équipes de Terre et Humanisme. Et pour tenter d'en remporter, vous vous envoyez un mail à l'adresse direct@rcf.fr avec vos différentes coordonnées. Je continue. Il y a beaucoup de questions, Fred. Alors là, préparez-vous. René nous demande « Mon compost est très humide et la décomposition est très lente. Faut-il ajouter un produit d'accélération ?»
Alors René, non, pas de produit d'accélération. Surtout pas de produit qu'on va l'acheter en jardinerie. C'est vraiment fait pour consommer. Mais par contre, si ce compost est très humide, il va forcément y avoir un problème d'équilibre entre le rapport carbone et azote. Et ce problème d'équilibre, vous allez pouvoir le corriger en ajoutant de la matière carbonée. Donc je m'explique. Vous allez pouvoir peut-être prendre une fourche, sortir tout ce compost et le mélanger avec une matière carbonée comme des feuilles mortes, comme de la paille, comme du broyat, comme du foin, ce que vous voulez. Et vous allez sortir ce compost et le remélanger avec ces matières carbonées. Et je peux vous assurer, René, que ce compost, avec les montées en température du printemps, il va bien se décomposer.
Et ben voilà pour René. Une question de Rod sur WhatsApp au 04 72 38 20 23. J'ai un bougainvillier qui est un peu jeune. Je l'ai planté en pleine terre. Il a une bonne croissance l'été et même en le protégeant, il prend le froid quand même l'hiver. Et j'ai toujours des branches qui sont mortes. Il n'y a que le pied qui est encore vivant. Il habite dans le sud, Rod. Et il se demande comment dois-je faire pour le faire croître correctement.
Eh bien, il va falloir mieux le protéger l'hiver, je pense, pour qu'il évite le gel encore une fois. Donc, comme pour le kiwi, eh bien, ça veut dire peut-être augmenter la densité de paillage au niveau du pied, et si on peut voilà le protéger avec un voile de forçage, un voile qui va le protéger, un voile P17 qui va le porter et qui va le protéger pendant les périodes les plus froides. Mmh. Ça va permettre voilà d'éviter un peu ces problèmes de branches qui gèlent.
Et ben voilà, merci Rod en tout cas pour cette question. Christine, vous êtes là?
Oui, bonjour, merci bonjour. De prendre mon appel.
Oui, je vais vous laisser patienter un instant, on va écouter de la musique, Christine, je vous mets en attente, et puis vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23, et de tenter de remporter une formation au dégraine en envoyant un mail à direct@rcf.fr.
Je ne suis jamais en retard quand c'est l'heure d'aller au boulot, je me lève tôt, je me couche tard, parfois j'ai un peu mal au dos. La vie normale, je l'aime bien, même si parfois je rêve d'être loin. Et si mes rêves sont banals, c'est peut-être que je les vaux bien. Ce n'est pas de l'or dans les mains, ce n'est pas avoir 20 sur 20, ni être roi, ni être reine, juste avoir la moyenne.
La vie normale, c'est dès qu'on peut mater les étoiles et être heureux. Et puis quand il n'y en a pas, eh ben, on s'en met dans les yeux.
Alors une fois la nuit tombée, je me balade parmi les gens. Je les entends rire, je les vois danser, ça me fait me sentir vivant.
Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire. Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire. Oh, 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 oh.
Et dans cette rame de métro, on se sert sans même se parler. Et si on est certainement trop, on reste beau à regarder.
On est beau de nos différences, bienvenue à toi l'étranger. Parle-moi de ton pays, je pense que ça me ferait voyager.
La vie normale, c'est comme la tienne, vivre des choses qu'on s'en souvienne. Je me contente de rien, tu vois, je veux juste le respect qu'on me doit.
La vie normale, si on l'ose, c'est comprendre qu'on n'est pas grand-chose. Qu'il n'y a de grand que l'amour que l'on peut donner chaque jour.
Alors une fois la nuit tombée, je me balade parmi les gens. Je les entends rire, je les vois danser, ça me fait me sentir vivant.
Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire. Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire. Oh, oh.
Pas de l'or dans les mains,
ce n'est pas avoir 20 sur 20,
ni être roi, ni être reine,
juste avoir la moyenne.
La vie normale, c'est comme la tienne,
vivre des choses qu'on s'en souvienne.
Je me contente de rien, tu vois,
je veux juste le respect qu'on me doit.
Alors une fois la nuit tombée, je me balade parmi les gens.
Je les entends rire, je les vois danser, ça me fait me sentir vivant.
Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire.
Et ça rend extraordinaire
ma vie, tout à fait ordinaire. Oh, oh. Jamais en retard quand c'est l'heure d'aller au boulot.
Je me lève tôt, je me couche tard, parfois j'ai un peu mal au dos.
La vie normale, c'était Gauvin Serre et Icar.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et toujours avec Fred Fortin, jardinier et formateur à terre et humanisme, qui répond à vos très nombreuses questions ce matin. Rebonjour Christine.
Bonjour, merci de prendre mon appel.
Je vous en prie, on vous écoute cette fois-ci.
Je suis à Paris, j'ai un balcon et j'ai planté moi-même des noyaux de nèfles. Donc j'ai des néfliers de près d'un 2 mètres. Et j'ai aussi un abricotier, même deux, qui sont nains, mais qui ont déjà donné des fleurs là, c'est très tôt. Et j'ai très peur qu'il n'y ait pas de fécondation par les abeilles, hein, de pollinisation. Pour les néfliers, j'ai des branches qui sont mortes. Je voulais savoir si je peux les tailler, comment on taille des branches, est-ce que c'est avec une scie, est-ce qu'il y a un produit à mettre sur les moignons. Voilà, je vais déjà vous laisser parler.
Merci Christine. Et Fred, que peut-on conseiller à Christine?
Bonjour Christine. Du coup, pour les branches mortes du néflier, il n'y a aucun problème. Vu qu'ils sont mortes, il n'y a plus de production de sève. La sève ne passe plus, donc il n'y a pas de problème, il faut les couper. Alors, le mieux pour les couper, c'est d'utiliser un sécateur bien aiguisé, bien propre aussi, on va pouvoir nettoyer les lames avec de l'alcool avant d'utiliser. Pour si jamais vous avez anciennement utilisé ce sécateur sur des branches malades, et vous faites une coupe légèrement de biseau pour que l'eau puisse s'écouler et ne pas stagner. Donc un bon sécateur bien aiguisé. Et si c'est vraiment une grosse branche, vous pouvez utiliser une petite scie pour les tailles, qu'on peut trouver facilement en jardinerie. Et toujours pareil, essayer de couper un maximum en biseau. Et pour ce qui est de l'abricotier, sur un balcon à Paris, moi je pense que vous pouvez toujours le protéger, avec un voile de protection, un voile d'hivernage, ce qu'on appelle, pour éviter les gels qui pourraient nuire à la pollinisation des fleurs, forcément. Mais je pense que à partir de maintenant, à part grosse exception, je pense pas qu'il va y avoir vraiment des gros gels qui vont détruire les fleurs, quoi. Alors il n'y a pas que les abeilles qui pollinisent, il y a de nombreux insectes qui eux aussi ont la capacité de polliniser. Voilà.
Voilà Christine.
Et juste la lutte contre les fourmis, parce que l'été dernier j'ai lutté pendant 4 ou 5 mois sur mon balcon contre les fourmis. Alors j'ai pas voulu mettre de poison, mais j'ai été malheureusement au bout de plusieurs semaines obligée d'acheter un produit chimique qui m'a pas plu. Mm-hmm. Mais bon.
Alors Fred, vous avez une technique naturelle contre les fourmis?
Alors les fourmis, nous on les laisse tranquilles.
Ah ouais.
Dans nos jardins, on les laisse. Ils sont inoffensifs en milieu tempéré. C'est pas la même chose en milieu tropical. Là, ils mangent tout en milieu tropical, mais en milieu tempéré, à part des fois nous piquer 2-3 semences dans les jardins, ils sont vraiment complètement inoffensives. Et s'ils sont là, c'est qu'il y a un intérêt quand même au niveau de la biodiversité dans les jardins. Je parle. Dans les maisons, c'est différent. Dans les maisons, il y a sûrement des astuces de grand-mère avec des produits qui pourraient les repousser. Je les connais pas parce que j'ai jamais eu ces problèmes-là. Donc regardez s'il y a des auditeurs qui ont des solutions de grand-mère pour repousser les fourmis.
Ah ben n'hésitez pas.
Mais c'est vrai que si on peut éviter les produits chimiques, sur tous les usages, si on peut éviter les produits chimiques, c'est quand même un plus.
Ouais, mission anti-fourmis, si vous avez des techniques, des conseils, vous envoyez un message sur WhatsApp au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. Allez, je continue avec les questions, Fred, parce que vous aimez bien y répondre. On a Jean-Luc de Lausanne qui nous dit, y a-t-il de l'intérêt à mélanger du fumier de cheval avec du compost?
Non, il n'y a pas d'intérêt. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt parce que le compost, ça va être vraiment un produit déjà fait, déjà prêt à l'emploi pour le jardin, qui va être bien équilibré, qui va pouvoir donner tous ses nutriments pour le sol. Et le fumier, on va le mettre à composter, on va le mélanger. S'il est assez pailleux, il va pouvoir se suffire à lui-même et on va le mettre à composter pour le jardin. Donc moi je vois pas d'intérêt de mélanger un produit fini avec un produit qui n'est pas fini en fait.
Bon, écoutez, ça au moins c'est dit, donc merci pour cette question Jean-Luc. Evelyne, qui habite en région Grand Est, est-ce encore temps de tailler les rosiers en pot? Ils sont déjà très feuillus et ce sont des sujets âgés.
Malheureusement, moi je ne toucherai pas... En général, j'évite de toucher aux végétaux qui ont démarré leur végétation avec la montée de sève. Avec il y a vraiment une diffusion de la sève qui se fait dans toute la plante, et venir blesser la tige, c'est vraiment une blessure qu'on vient faire dans la plante. Mmh. Donc moi je laisserai vraiment la plante faire sa vie et faire la taille au bon moment. Ça veut dire l'hiver quoi pour les rosiers.
Une autre question de Philippe. J'ai deux camélias en pleine terre qui ont souffert de sécheresse l'été dernier et d'excès d'eau dû aux précipitations importantes depuis plusieurs mois. Ils avaient perdu du feuillage fin d'été récemment. Les bourgeons sont tombés ainsi que quelques feuilles de plus. Je n'ai donc pas vu une fleur cette année, nous dit Philippe. Que faut-il leur apporter pour leur redonner du feuillage et de la vigueur?
Oui, alors... Ça, c'est souvent une question qu'on nous pose, les bourgeons qui tombent des camélias. Et plus récemment, ma belle-mère a eu le même problème chez elle, sur son balcon. Donc, un bonjour à ma belle-mère. Donc, ça peut venir de différents problèmes. Ça peut être une carence en fertilisation. Donc, c'est bien de ramener un peu de fertilisant au niveau du pied, au niveau du pot. Donc sous forme de compost ou sous ouais. forme d'engrais biologiques, sous forme de l'engrais biologique sous forme de granulés.
Ouais.
Mais ça peut être aussi un problème d'hydromorphie. Donc là, forcément, trop d'eau dans le pot, mauvais drainage, mauvais ressuyage du pot, ça peut être très problématique et c'est très problématique en général pour les plantes en pot, donc ça ne m'étonnerait pas. Donc premièrement, bien résoudre ce problème de l'eau qui stagne dans le pot,
ouais.
bien drainer, bien ressuyer, peut-être changer un peu la terre si elle est vraiment trop compacte, si elle est trop imbibée d'eau.
Ouais.
Et peut-être voilà rajouter un petit peu d'engrais biologique sous forme de granulés ou de compost.
Bon ben là Philippe il a le choix hein, pour le coup pour sa plante, donc bon courage à vous. On a quelques réponses pour les fourmis, mon cher Fred. Alors on a Vincent que vous connaissez bien je crois, qui nous dit, qui préconise le citron qui fait une poudre blanche quand il pourrit. Et cette poudre, il faut mettre cette poudre sur le passage des fourmis. Alors pareil pour Monique, qui nous dit attention, ça sent pas bon. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Eh bien, je fais entièrement confiance à Vincent, qui est quand même et Monique, qui sont des as du jardin. Et...
ouais. Bon, bah, c'est parfait. On a aussi une autre auditrice qui préconise de la terre de Diacomé, ou encore Blandine qui nous dit de mettre des vivaces odoriférantes que les fourmis n'aiment pas, comme une sauge médicinale. Elle a écrit saute. Je pense que c'est sauge. Hein.
Sauge, ouais.
Ouais, c'est ça. Médicinale lavande au pied des rosiers. Ça semble très efficace. Bon, enfin, voilà. Il faudra faire une émission sur les fourmis, Fred, un jour, hein, parce que je pense qu'il y aurait de quoi, tenir quelques heures. Je vous remercie une fois de plus d'avoir participé. C'était un vrai plaisir, Fred.
Eh bien, toujours un vrai plaisir aussi, Melchior.
Et on se dit à tout bientôt pour une prochaine émission. Vous pouvez tenter de remporter, je le rappelle, des graines de terre et humanisme, ou alors une formation, il faut se rendre sur place. Ça dure 1 à 3 jours, sans adhésion obligatoire de votre part. Et pour tenter de remporter l'un ou l'autre, c'est à vous de choisir. Vous envoyez un mail avec vos coordonnées et à l'adresse direct@rcf.fr. Bon courage à tous, merci à Catherine, Antoine et Vincent. Et on se dit à lundi, 9h dans Je pense donc j'agis.